Bonjour Gilles, merci. Il est 8h10 à Quito. L'Équateur, où les prisons du sud du pays se sont transformées en terrain d'affrontement hier entre gangs et le bilan est extrêmement lourd. Les phénomènes climatiques et maintenant le Covid, les crises à répétition en Amérique centrale entraînent des difficultés pour la population à se nourrir. L'ONU s'inquiète. Nous serons aussi en Haïti, où les dessins animés et autres documentaires produits dans le pays ont désormais leur plateforme pour être diffusés. Ça s'appelle Moem TV. Et puis, dans une quinzaine de minutes, le journal de la première avec vous, Benoît Ferrand. Ça coinçait ce matin sur les routes de Guadeloupe.
Oui, au lever du soleil, l'île des Antilles s'est retrouvée bloquée par toute une série de barrages routiers, barrages érigés par des socioprofessionnels en colère, vous l'aurez compris, suite au marasme causé par un an de crise sanitaire.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous.
Je suis avec le cœur et la main, parce que je ne sais de moi.
J'ai le cœur déchiré parce que je n'ai pas de nouvelles de mon fils, dit cette mère, les larmes aux yeux, attendant devant l'une des trois prisons du sud de l'Équateur, où au moins donc 75 détenus ont été tués hier lors de mutineries dues, selon les autorités, à des rivalités entre gangs. Éric Sanson, vous nous racontez.
Tourné par des mutins, les images qui ont filtré sur les réseaux sociaux sont insoutenables. À coups de barres de fer, de couteaux, de machettes ou de simples bâtons, des prisonniers s'acharnent sur la tête d'un homme dont on ne sait plus s'il est encore vivant. À côté, d'autres cadavres sont entassés, beaucoup décapités ou amputés, pendant que des prisonniers jouent avec des têtes. Cette violence, selon le ministre de l'Intérieur, Patricio Pazmiño, est le résultat d'une action concertée d'organisations criminelles se disputant le contrôle des prisons de Guayaquil, de Turi près de Cuenca et de celle de Latacunga au sud de Quito. Dans la prison numéro 4 de Guayaquil, par exemple, ce serait une lutte interne entre des membres du gang des Choneros qui aurait provoqué la mort de plus de 30 détenus. Au moins 8 personnes ont été tuées dans la prison de Latacunga au sud de Quito, où sont détenues plusieurs personnes liées à de graves scandales de corruption dans des hôpitaux du pays au début de la pandémie de Covid-19. Des groupes tactiques de la police ont été déployés à l'intérieur des prisons pour essayer d'en reprendre le contrôle, alors que l'armée se maintient à l'extérieur pour éviter les évasions. Éric Sanson, Quito, RFI.
Et bonjour à vous Marie Normand.
Bonjour Mickaël.
La presse équatorienne revient, bien sûr, sur ces mutineries.
Oui, avec des épouses, des mères de prisonniers en pleurs à la une d'El Universo et Espresso de Guayaquil. Ce mardi a été une journée sanglante, sans précédent dans notre histoire républicaine, écrit Laura dans son édito. Des émeutes orchestrées et soigneusement planifiées qui démontrent que les mafias et leurs hommes de main contrôlent les prisons. Le journal s'interroge sur les armes qui ont été utilisées, notamment des tronçonneuses. Comment ont-elles pu pénétrer dans l'enceinte de la prison ? El Universo note la réaction sur Twitter du président Lénine Moreno. Il soutient avoir ordonné au ministère de la Défense, je cite, « d'exercer un contrôle strict des armes dans les périmètres extérieurs des prisons ».
Pour le journal Laura, Marie, il existe en tout cas un sérieux problème d'encadrement.
Oui, selon un spécialiste de la sécurité interrogé par le journal, les normes internationales imposent normalement un agent pénitentiaire pour 10 prisonniers. Il manque donc 70% des agents nécessaires dans les prisons équatoriennes. Pour lui, il faut recruter d'urgence 5000 agents pour reprendre le contrôle des prisons. Pour Laura, d'ailleurs, ce qui s'est passé hier, c'est aussi un appel au secours et l'État doit réagir.
Le Pérou encore, l'Équateur, pardon, encore, et la marche pour, je prenais un peu d'avance, pour la transparence et la démocratie, comme l'appellent les indigènes, qui est arrivé hier dans la capitale Quito, des milliers de manifestants persuadés que leur candidat, Yacu Pérez, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle, a été lésé, comme par exemple le député Salvador Quispe, qui conteste les chiffres officiels. Écoutez.
Il n'y a aucune logique dans les résultats. Nous, les députés élus du mouvement Pachakutik, avons obtenu ensemble un pourcentage de suffrages très supérieur à celui de notre candidat présidentiel. Comment l'expliquer ? Ça ne colle pas.
Et on le rappelle, c'est le candidat de la droite, Guillermo Lasso, qui a été qualifié pour affronter le choriste Andrés Arauz le 11 avril prochain, date à laquelle les Péruviens voteront eux aussi pour leur président. Le contexte sanitaire aura-t-il une incidence sur le résultat ? Le nombre de cas de Covid a été multiplié par 4 par rapport à décembre au Pérou et la demande en oxygène a donc explosé, sauf que les hôpitaux et même les cliniques privées aujourd'hui sont à court et les queues s'allongent. Villoen Munoz Boileau devant les rares distributeurs de Lima.
Nous sommes à Villa El Salvador, un quartier populaire de Lima. Dans cette rue poussiéreuse, des centaines de bouteilles d'oxygène se dressent à perte de vue, veillées par une foule masquée. La plupart de ces gens ont passé la nuit dehors, dans le froid. Debout, à côté d'une bouteille d'oxygène encore vide et plus grande qu'elle, Laura Vergara semble à bout.
Ça fait une semaine que je fais la queue et que je dors ici. Mon mari est en insuffisance respiratoire. J'ai supplié l'hôpital pour avoir un lit en soins intensifs, mais on m'a répondu qu'il n'y avait plus d'oxygène pour les alimenter.
Avant de recourir à cette distribution gratuite, cette mère de trois enfants s'est endettée pour acheter de l'oxygène car la pénurie a fait exploser les prix.
J'ai déjà dépensé plus de 20 000 dollars pour sauver la vie de mon mari, alors que je gagne à peine 270 dollars par mois. C'est pour ça que je suis là, je n'ai plus un sou.
Son désespoir et son exaspération, tous ici la partagent. Ce jour-là, le dernier de la file a le numéro 550, mais l'entreprise en charge de la distribution d'oxygène ne peut remplir que 200 bouteilles par jour et encore à moitié seulement pour qu'il y en ait pour tous. Dans la matinée, une dispute éclate dans la file d'attente. Certains dénoncent la présence de mafieux qui cherchent à se faire de l'argent en vendant leur place dans la queue malgré la présence des forces de l'ordre. Cette situation, on la retrouve aujourd'hui dans tout le pays. Selon le gouvernement péruvien, il manque environ 100 tonnes d'oxygène par jour. Pilouen Munoz-Boileau, Lima, RFI.
La pénurie d'oxygène au Pérou et le scandale des faux tests de dépistage Covid. Marie, ça c'est au Guatemala, le parquet anticorruption se saisit de l'affaire.
Oui, 30 000 tests commandés par le ministère de la Santé pour un demi-million de dollars. Ils ont été achetés par la société locale Kron à Attila Biosystem, une société basée aux États-Unis. Mais le réactif n'est pas utilisable pour pratiquer des PCR, selon ce même ministère qui a porté plainte. La compagnie américaine nie toute implication. Aucun de ces tests n'a en tout cas été réalisé sur un patient, soutient la vice-ministre de la Santé dans le journal guatémaltèque La Hora. L'enquête s'intéresse au rôle joué par l'actuel vice-ministre de la Culture et des Sports qui aurait directement participé à l'achat de ces tests et qui avait été placé au ministère de la Santé avec l'appui d'un autre haut fonctionnaire.
Et quant aux vaccins, Marie, au Guatemala, ils ne sont pas encore arrivés.
Et non, normalement, un premier lot arrive demain. C'est en tout cas ce que promet le ministère des Affaires étrangères. 5000 doses données par Israël, écrit Prensa Libre, et des vaccins Moderna, précise Laura. Fin janvier, le président avait promis que 900 000 doses arriveraient en février à travers le système COVAX, mais la date a été constamment reportée depuis. Le Guatemala aurait aussi terminé des négociations avec Pfizer pour la livraison de 7 millions de doses, ajoute Prensa Libre.
5000 doses venues d'Israël pour le Guatemala et 5000 pour le Honduras.
Oui, c'est à la une de la Prensa, et comme au Guatemala, ces toutes premières doses doivent servir à vacciner le personnel de santé qui est en première ligne.
L'Amérique centrale confrontée au Covid, en plus des crises climatiques, les ouragans, la sécheresse, autant de facteurs qui n'ont fait que renforcer l'insécurité alimentaire au Nicaragua, au Salvador, au Guatemala et surtout au Honduras. Le programme alimentaire mondial alerte. Étienne Labande est le directeur adjoint du PAM au Honduras. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire, nous dit-il, a été multiplié par 4 en 2 ans.
Entre la fin de 2018 et la fin de 2020, en l'espace de 2 ans, sur les 4 pays de la région, on est passé d'environ 2 millions à 8 millions maintenant. Donc on a un effet cumulé des mesures de prévention de la transmission de la COVID-19 qui ont eu un impact sur l'économie des ménages et en particulier sur les personnes qui travaillent dans l'économie qu'on appelle informelle, qui sont les vendeurs de rue, les travailleurs journaliers, etc. Et ensuite, les 2 tempêtes tropicales qui ont eu des effets également dévastateurs sur l'économie et sur les pertes financières au niveau des ménages qui, pour certains d'entre eux, il y a certaines familles qui ont perdu leur maison, les équipements dans la maison, puisqu'il faut savoir que les inondations sont montées jusqu'à 3 ou 4 mètres dans la région de San Pedro Sula, au nord du pays.
Et de quelle façon ces tempêtes Iota et Eta ont donné un coup supplémentaire dans les zones rurales également, pas seulement dans les villes, mais aussi pour les producteurs centra-américains?
Oui, pour les petits producteurs des zones rurales qui sortent de 5 ou 6 ans de sécheresse répétée, ça a été un choc supplémentaire puisque là, une année où on avait des perspectives de récolte qui étaient meilleures que les années antérieures puisqu'on avait 2 saisons des pluies qui avaient été meilleures, tout d'un coup, les 2 tempêtes tropicales Eta et Iota ont détruit une grande partie des plantations. Donc voilà, pas de récolte ou moins de récolte et de nouveau un choc pour ces populations-là.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette situation, ces difficultés à se nourrir, à nourrir sa famille, vont pousser plus de personnes, plus de Honduriens et de Centra-Américains à tenter la migration vers le Nord ?
C'est très possible. L'insécurité alimentaire, les difficultés à nourrir sa famille font partie du processus de prise de décision de partir pour la migration ou pas. Et ça, nous le savons au travers d'enquêtes que nous avons réalisées dans la région. Étant donné l'augmentation globalement dans les quatre pays de la crise en termes d'insécurité alimentaire, c'est effectivement quelque chose qui va peser plus lourd dans la prise de décision de ces familles et de ces individus pour partir à la migration ou non. Entre 2019 et aujourd'hui, avec des enquêtes comparables, puisqu'on pose la même question à chaque fois, à l'époque, en 2019, on avait 8% des familles ou des personnes interrogées qui répondaient être en train de faire des plans pour migrer. Et la dernière enquête, qui date de fin 2020, nous donne un taux de 15%. C'est-à-dire qu'on a quasiment doublé le nombre de réponses de personnes qui nous disent qu'elles sont en train de se préparer à partir.
Quelles sont les mesures les plus urgentes dont ont besoin les pays centra-américains et qu'appellent de ses voeux le programme alimentaire mondial ?
En fait, c'est en deux temps. Il y a toute la réponse à l'urgence qui est très importante, mais qui est en cours. On a eu une réponse relativement bonne de la part des pays donateurs. Donc là, pour ce qui concerne le programme alimentaire mondial, c'est assurer sur le court terme que la sécurité alimentaire des familles et des individus est assurée pour les plus vulnérables d'entre eux. Le vrai défi maintenant, c'est sur le plus long terme, parce que la récupération, la réhabilitation de l'économie, le retour à une situation plus normale pour les personnes qui travaillent, qui doivent gagner leur vie pour pouvoir nourrir leur famille, tout cela va prendre beaucoup plus de temps. Une étude au Honduras nous dit que le pays va prendre au moins jusqu'en 2025 pour revenir à un niveau comparable à celui de 2019 avant les crises successives.
Étienne Labande du PAM, interview signée Lucille Jimbert. Il est 8h22 à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, où pour une fois nous n'allons pas parler de la crise politique et sécuritaire que traverse le pays encore, qu'il y a un lien, puisque la situation actuelle est un frein à la création culturelle dans le pays. Et quand celle-ci existe, comment la diffuser ? Eh bien, c'est ce que propose désormais de faire depuis lundi Mouem TV, nouveau diffuseur en ligne de l'offre audiovisuelle haïtienne. Amélie Baron.
Mouem TV se veut une plateforme qui s'adresse à tous les Haïtiens, ceux qui vivent dans le pays comme ceux résidant à l'étranger. L'idée est de centraliser en ligne la production multimédia culturelle et éducative. Tout a commencé en 2003 avec des caravanes itinérantes pour projeter des films partout dans le pays. Et Tatiana Magloire, la directrice du projet, explique comment l'épidémie de Covid-19 a tout accéléré.
L'idée de Mouem TV vient du fait que pendant les débuts du confinement, de la pandémie, de la fermeture des activités culturelles en présentiel, le fameux nouveau mot de 2020, on a vu qu'il y avait une grande offre sur les internets de divertissement. Il n'y avait pas assez d'offres éducatives et culturelles réfléchies. On voulait ajouter notre programmation qu'on a l'habitude de faire dans les écoles ou en grand public, c'est-à-dire d'élever les mentalités, de faire avancer les débats sociaux.
Le nom Mouem TV, cela vient du créole « moins ouais moins, je me vois ». L'idée est venue du triste constat que sur les chaînes TV de leur propre pays, les Haïtiens manquent de représentation à l'écran.
L'idée, c'était justement de faciliter cet accès, parce que même sur les zones des télévisions locales, la majorité de l'offre, c'est soit de la musique ou soit des programmes étrangers. C'est aussi parce qu'il y a tellement du contenu éparpillé sur les internets, comment on peut retrouver à un endroit avec une chaîne et une programmation éducative, culturellement riche et qui nous ressent.
Pouvoir s'identifier au programme, aux acteurs que l'on voit à l'écran, c'est essentiel pour offrir des modèles aux enfants et aux jeunes. Mais Tatiana Magloire sait déjà qu'accéder à Mouem TV n'est pas une possibilité pour tous les citoyens.
Même là, avec le produit qu'on monte, ça limite aussi l'accès, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un téléphone intelligent, qui a accès à l'électricité, qui a accès aux internets. Donc, il faut essayer d'aller chercher l'Haïtien là où il est le plus que possible. Donc, j'espère qu'on pourra migrer vers la radio, qui est vraiment le principal outil de communication dans le pays pour le moment. Mais ça serait un autre palier à atteindre.
Pour surtout permettre aux Haïtiens de s'identifier, de s'approprier les programmes, la langue créole est évidemment préférée. Ouélélé est l'animateur de la chaîne qui proposera des émissions en direct. Ils militent pour une réappropriation de leur langue natale par les Haïtiens.
On travaille à la décolonisation mentale car il est temps que l'on se regarde différemment. Et en suivant cette logique, il faut que l'on ait des programmes qui nous ressemblent. C'est un rappel au travail de Frantz Fanon dans son livre « Peau noire, masque blanc ». Il faut que l'on continue cette bataille que nos ancêtres ont commencée en libérant déjà le physique, car comme on dit chez nous, c'est l'esprit qui mène le corps.
Et ça n'est donc absolument pas un hasard si Moi MTV a été lancé sur toutes les plateformes numériques le 21 février, date de la Journée internationale de la langue maternelle. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Un projet qui a vu le jour, notamment grâce au financement de l'Union européenne. Moi MTV qui est à retrouver sur le site Moi MTV ou bien directement sur YouTube. Il est 9h et quasiment 26 minutes à Pointe-à-Pitre maintenant. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
Ça coincé, hein. Donc ce matin en Guadeloupe, un collectif de socioprofessionnels avait appelé à bloquer les grands axes routiers de l'île.
Oui, dès avant le lever du soleil, l'île des Antilles s'est retrouvée cadenassée par toute une série de barrages routiers, barrages érigés, vous l'avez dit, par des socioprofessionnels en colère. En colère à cause, vous l'aurez sans doute déjà compris, du marasme économique causé par un an de crise sanitaire. Olivier Lancien.
Un ras-le-bol des principaux acteurs de l'économie de l'archipel. Le BTP, le bâtiment de travaux publics d'abord, avait déjà lancé des coups de semonce il y a quelques semaines déjà. Ces entreprises sont asphyxiées selon leur porte-parole. Pas de perspective de sortie de crise à moyen terme. La commande publique serait en berne. Les principaux leaders n'ont pas travaillé sur des chantiers importants depuis plus de 3 mois déjà. Suivant l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien là, rien ne va, selon eux. Marasme économique aussi pour les autres secteurs d'activité dans l'archipel. Ils sont aussi sur le terrain ce matin, notamment les transporteurs. La crise sanitaire du coronavirus dure depuis maintenant près d'un an et les conséquences économiques sont là. Malgré les aides lancées par le gouvernement et par les collectivités locales, ils ne voient pas le bout du tunnel. Le spectre des faillites en cascade est mis en avant. En face, l'État et les collectivités avancent le plan de relance économique. L'espoir de cette route secours du gouvernement semble faire long feu pour les socioprofessionnels. Peut-être que la nomination au Conseil des ministres de la préfète guadeloupéenne, Odile Nassibide, pourrait relancer cet espoir. Administrateur civil, elle a été nommée hier par Emmanuel Macron, le président de la République, sous-préfète à la relance économique en Martinique et en Guadeloupe.
Les raisons de la colère, donc, avec Olivier Lancien, une colère qui ne risque probablement pas de retomber dans les jours, voire même les heures qui viennent, avec de nouvelles mesures de restriction qui vont s'appliquer en Guadeloupe dès aujourd'hui. Franck Aristide.
D'abord, dès demain. Exception faite aux manifestations revendicatives et cérémonies funéraires. Tous les autres événements rassemblant du monde seront à nouveau strictement limités à 6 personnes. Dans les magasins, les musées et les salles d'exposition, la surface minimale par individu sera doublée de 4 à 8 mètres carrés désormais. Ensuite, à compter de lundi cette fois, fini l'autorisation fixée à 600 spectateurs pour les compétitions de football dans les stades. La jauge est ramenée à 300. Dans les gymnases et piscines avec gradins, elle est également divisée par 2, passant de 300 à 150. Enfin, à Destreland et Milenis, les 2 plus grands centres commerciaux de l'île, toutes les boutiques devront garder porte close. Seuls les hypermarchés, les pharmacies et les restaurants présents sur ces sites pourront rester ouverts. Dès hier, les contrôles des services de l'État, de la police et de la gendarmerie ont été renforcés.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. On se retrouve demain dans notre journal d'Haïti et les Amériques qui était réalisé aujourd'hui par Jérémy Boucher. Cette édition, comme toutes les autres qui sont à retrouver, bien sûr, sur RFI Pure Radio, notre player, mais également via nos réseaux sociaux, Facebook, je vous le rappelle, le journal d'Haïti et des Amériques, et sur Twitter, @RFIAmérique. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.
7 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages.